Radio Prague, les informations.
La dette publique tchèque a atteint 1,178 billion de couronnes à la fin de 2009. Agression contre une maison habitée par des Roms à Ostrava. Découverte à Brno d'une cachette de faux articles. La dette publique de la République tchèque a augmenté en 2009 de plus de 178 milliards de couronnes pour atteindre le chiffre de 1,178 billion de couronnes, quelque 45 milliards d'euros. À titre d'illustration, c'est 112 000 couronnes, soit 4 300 euros par tête d'habitant. Des données fournies à l'agence Tcheteka par le ministère des Finances, la plus grande part de cette dette est créée par l'accumulation des déficits budgétaires. Pour couvrir la dette, l'État a recours à l'émission de bons d'État, au prêt direct ou encore au prêt à la Banque européenne d'investissement. Un cocktail Molotov a été jeté sur la maison d'une famille rome dans la ville d'Ostrava en Moravie du Nord, selon une information donnée par la police lors d'une conférence de presse ce lundi. Personne n'a été blessé. Un team spécial a été créé pour enquêter sur cet incident ayant eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Les douaniers ont découvert ce samedi à Brno une cachette avec de faux articles pour 6 millions de couronnes, quelque 230 000 euros. Les marchandises ont été stockées dans un stand du marché de Brno. C'était dans la plupart des chaussettes, des sacs à main et du prêt-à-porter. Ces faux articles portaient des marques de grandes sociétés mondiales. Le marchand de stand est passible d'une amende de 5 millions de couronnes. Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, se trouve en visite d'une semaine en République tchèque. Jeudi, il sera reçu au château de Prague par le président Václav Klaus. La rencontre renouera avec celle qu'ils ont eue en 2006 et qui a porté sur l'intensification des rapports tchéco-cambodgiens. Le roi du Cambodge est connu pour ses attaches à Prague, où il a fait ses études du ballet entre 1962 et 1975. Le prince Charles, héritier du trône de Grande-Bretagne, est reçu ce lundi à Varsovie, la première étape d'une tournée qui le conduira ensuite en Hongrie, puis de 20 au 23 mars en République tchèque. D'après le porte-parole de Clarence House, le voyage est inspiré par le 20e anniversaire de la chute du communisme. Le jour de leur arrivée à Prague, le prince Charles et son épouse Camilla seront reçus par le président de la République, Václav Klaus. Le prince Charles, dont on connaît ses activités en faveur de la protection de l'héritage culturel et naturel, se rendra entre autres à Ostienin, commune morave, qui s'est fait connaître par ses intéressants projets écologiques. Météo. Ce lundi, fête de toutes les Idas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuagé à couvert avec des chutes de neige par endroits. Les températures de diurne se situent entre 1 et 4 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Wechtl.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de notre première émission de cette dernière semaine d'hiver. On parlera business pour commencer avec une initiative de la Chambre de commerce américaine en République tchèque décidée à se lancer dans la lutte contre la corruption. Et puis de la culture aussi avec le festival de films documentaires One World qui se poursuit à Prague. Vous entendrez deux réalisateurs français venus montrer leurs films dans le cadre de ce festival. Et puis hommage également au chanteur français Jean Ferrat dans cette émission, ce sera dans un instant. Juste après, ce sera comme d'habitude le sport avec Guillaume Narguet. Et puis vous retrouverez Václav Richter qui vient de vous présenter les informations pour l'émission musicale. Je vous souhaite une très bonne réception. L'opacité et la corruption dans les appels d'offres publics, des mots contre lesquels la Chambre de commerce américaine à Prague veut désormais lutter activement en mettant sur pied une équipe chargée de rédiger un amendement à la législation sur ces appels d'offres. Le journaliste américain Eric Best est membre du conseil d'administration de cette chambre de commerce. Il nous a parlé des raisons de cette initiative, une initiative dont on parle beaucoup à Prague dans le milieu des affaires.
Oui, j'ai crois qu'il y a deux raisons pour une initiative maintenant, où je crois que le temps est mûr pour une réaction de la sphère de la commerce. Il y a toujours une crise en République tchèque, on sent les effets de la corruption plus que jamais. Et il y a, je crois, une volonté de la part des politiques, des partis politiques, de faire des promesses avant des élections. Sur l'autre côté, la corruption en République tchèque a dépassé déjà des limites acceptables. Je crois que les électeurs sont fâchés, tout le monde croit en tant qu'il faut économiser, mais ce sont les uns qui ont en haut, les politiciens, les grands hommes d'affaires qui n'économisent pas, et les gens en bas sont fâchés à cause de ça.
Est-ce que la Chambre de commerce américaine a pris cette initiative parce que des entreprises américaines aussi ont été touchées par des affaires de corruption dans des appels d'offres publics?
Je crois que c'est une très bonne question, mais je ne crois pas que ce soit la raison. C'est vrai qu'il y avait trois affaires récemment qui ont insinué des sociétés américaines. Ce sont des scandales qui touchent les sociétés Hewlett-Packard, General Dynamics et Ford. Et c'est vrai qu'une des trois sociétés est un membre de la chambre de la commerce. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous avons décidé de lancer cette initiative maintenant. C'est plusieurs parce que le temps est mûr. Et je crois que les politiciens qui ont réussi à écouter une telle initiative, et le plus grand problème, c'est que la corruption en République tchèque a vraiment dépassé des limites acceptables. C'est quelque chose que les électeurs voit, et c'est aussi quelque chose que la presse voit, et la presse est maintenant plus active dans l'enraciné de la corruption.
Quelle chance donnez-vous personnellement à cette initiative? Est-ce que on pourra avoir les fruits d'une telle initiative même après la campagne électorale, selon vous?
Oui, je suis optimiste, parce que nous avons déjà vu une vague de soutien. Il y avait des réactions très positives de plusieurs chambres de commerce, des Néerlandais, les Allemands, les Scandinaves, les Canadiens. J'espère aussi que les Français vont accepter aussi notre invitation. Mais pour avoir du succès, il faut exercer de la pression sur des partis politiques, parce que c'est vrai qu'il est très facile de donner des promis avant des élections. Mais s'il y a une vague, vraiment une vague de soutien pour une telle initiative, on peut espérer qu'après les élections, ce sera plus difficile pour les politiciens d'ignorer ce qu'ils ont promis avant les élections.
C'était le journaliste américain Eric Best, membre du conseil d'administration de la Chambre américaine de commerce à Prague.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade.
Petit hommage maintenant de Radio Prague au grand Jean Ferrat, décédé ce week-end, vous le savez. Jean Ferrat qui, juste après l'invasion des troupes du pacte de Varsovie à Prague en 1968, avait écrit cette chanson, Camarade. Écoutez bien les paroles.
Avec ton seul nom comme au barde, les lèvres s'épanouissent, camarade, camarade. C'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague. que le mois d'août s'obscurcit. Camarades.
C'était l'hommage de Radio Prague à Jean Ferrat, disparu ce week-end. Et on continue avec de la culture toujours, mais de la culture avec du film documentaire et dans le cadre du festival du film sur les droits de l'homme, One World, vous le savez, ce festival qui se déroule en ce moment à Prague. Deux cinéastes français sont venus présenter leur film qui s'appelle Les Arrivants, un documentaire qui se déroule à la CAFDA à Paris, la CAFDA, un centre qui accueille les demandeurs d'asile à leur arrivée en France. En pleine période de restrictions vis-à-vis des migrants en Europe, la CAFDA apparaît comme un microcosme où la détresse des migrants vient se heurter à l'impuissance des accueillants. Anna Kubishta a rencontré les deux cinéastes, Claudine Bory et Patrice Chagnard. On écoute.
En fait, on cherchait à faire un film sur, disons, sur l'immigration, on va dire, pour faire comme ça un peu large. Et en même temps, on a vite réalisé que cette question du droit d'asile, qui est quand même distincte de la question de l'immigration, était plus importante finalement pour nous parce qu'elle nous permettait d'exprimer notre philosophie sur la question de l'immigration. Parce que, par nature, le droit d'asile, c'est le contraire de l'immigration choisie. On choisit pas les demandeurs d'asile. On peut choisir des immigrés si on veut, voilà, mais on peut pas choisir les demandeurs d'asile. On peut choisir de leur dire oui ou de leur dire non, c'est tout. Traditionnellement, en France, on leur a longtemps dit oui. Depuis quelque temps, on leur dit de plus en plus non, et voilà, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire ce film.
Alors ce qu'on voit aussi dans ce film, il faudrait peut-être rappeler justement pour les auditeurs qui ne sont pas trop au courant, on voit aussi qu'il y a des problèmes de législation un peu particuliers, et on en parle un petit peu, c'est un terme qui revient, c'est la législation Dublin.
Dublin. Oui.
Alors est-ce qu'on pourrait un peu éclaircir juste cette terminologie qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde
hein. C'est un peu complexe, alors bon, pour faire court, les pays européens se sont mis d'accord pour qu'il y ait un seul pays dans lequel chaque demandeur d'asile peut faire sa demande. Voilà, un pays référent, on dit. Bon. Et en gros, ce pays, c'est celui par lequel il est rentré en Europe. À partir du moment où il n'est plus dans ce pays, il est sous la loi Dublin, et donc il doit retourner dans ce pays. Or, en fait, ces pays, qui sont souvent à l'entrée de l'Europe, comme par exemple la Grèce, pour toute une partie de l'immigration, l'Italie pour une autre, la Pologne pour une autre, bon, ils seraient débordés, en réalité, donc ils les laissent passer, bien sûr, et donc on se retrouve avec toute une population comme ça, qui erre de pays en pays en Europe, sous la législation Dublin, qui ne reviennent pas, finalement, dans le pays où ils devraient revenir, parce qu'ils en ont pas envie, et parce que le pays non plus n'a pas envie de les retrouver. En plus, il se trouve que, par exemple, certains de ces pays, comme la Pologne et plus particulièrement encore la Grèce, n'accordent pratiquement aucun statut. Et c'est une directive inapplicable.
Mais je pense que cette directive est inapplicable volontairement. C'est-à-dire, je pense que c'est une des façons dont l'espace Schengen se protège par rapport aux immigrations non choisies, puisque c'est vraiment une politique qui concerne tous les pays d'Europe et que tous les pays d'Europe, en gros, maintenant, sont d'accord sur cette question-là, à savoir que l'espace, on circule, les frontières n'existent plus à l'intérieur de l'espace Schengen, mais l'espace Schengen devient une espèce de forteresse qu'on ne peut pas pénétrer sauf si tel pays fait venir telle personne pour telle ou telle raison. Voilà.
Est-ce que la Convention de Genève n'a pas comment dire, plus de pouvoir, entre guillemets, législation Dublin?
Philosophiquement, on va dire oui, mais juridiquement, c'est plus compliqué que ça. Parce que juridiquement, en réalité, les réglementations Dublin, c'est une réglementation interne à l'Europe. Donc ça ne touche pas aux conventions, théoriquement. Ça ne devrait pas pouvoir s'opposer juridiquement aux conventions. Et d'ailleurs, dans les textes, littéralement, ça ne s'oppose pas. Ça s'oppose dans la pratique, pas dans les textes.
Quand vous avez décidé alors de vous intéresser à ce sujet et de filmer ce centre
dans ce lieu,
quelles sont un peu les règles que vous vous êtes imposées ou quels sont les écueils dans lesquels vous ne vouliez pas tomber, par exemple, on pourrait se dire est-ce que vous êtes donné par exemple des règles, je sais pas, d'objectivité ou
non d'objectivité, non, mais plutôt de vérité. C'est-à-dire ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir ce qui se passait réellement dans ce face-à-face entre les accueillants et les demandeurs d'asile.
Et je crois ce qui est très important, de filmer les deux côtés.
Les deux côtés.
C'est-à-dire de ne pas se contenter de filmer un des deux côtés, et notamment le côté des arrivants, puisque c'est le titre, et c'est aussi vers là qu'on va naturellement, vers eux. Et nous, on a voulu s'intéresser autant, et même peut-être davantage, je dirais, aux accueillants, aux accueillantes, c'est-à-dire aux travailleurs et aux travailleuses sociales qui sont au front, qui subissent ce choc d'avoir à accueillir des demandeurs d'asile et de ne pas avoir les moyens de le faire.
C'était Patrice Chagnard et Claudine Bory, les réalisateurs du film Les Arrivants, un film documentaire qui sortira le 7 avril en France. Et c'est déjà la fin des premiers faits et événements de la semaine sur Radio Prague, mais le programme en français continue dans une poignée de secondes avec l'actualité sportive.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au programme une nouvelle fois très varié puisqu'il sera question de patinage de vitesse, de ski alpin, de cyclisme et d'athlétisme. En patinage de vitesse tout d'abord, la héroïne tchèque des Jeux de Vancouver, Martina Sablikova, a fait son retour à la compétition après ses 2 titres olympiques. La Tchèque a remporté la finale de la Coupe du Monde sur 3000 mètres. En ski alpin, la République tchèque a créé la surprise dimanche en remportant la compétition par équipe qui clôture les finales de la Coupe du Monde. En cyclisme, Roman Kreuziger a finalement terminé à la 4e place de Paris-Nice. Et puis enfin, en athlétisme, les Tchèques sont revenus sans médaille des championnats du monde en salle à Doha au Qatar. Après l'ouragan médiatique et les multiples sollicitations qui ont suivi ses 3 médailles olympiques et notamment son doublé sur 3000 et 5000 mètres, Martina Sablikova, fatiguée et en manque d'entraînement, avait laissé planer un doute sur sa participation au final de la Coupe du Monde de patinage de vitesse. Finalement, la Tchèque était bien présente au départ vendredi sur l'anneau de Herenveen, la Mecque de la discipline, et devant le public néerlandais, Martina Sablikova a fait une nouvelle fois la démonstration qu'elle était quasi imbattable sur les longues distances. En s'imposant sur 3000 mètres avec 29 centièmes et 1 seconde et 32 centièmes d'avance sur les Allemandes Daniela Anschulz-Thoms et Stéphanie Beckert, elle a remporté le classement général de la Coupe du Monde pour la 4e saison d'affilée, faisant ainsi mieux encore que la légendaire allemande Claudia Perchtein. Samedi, Martina Sablikova a également confirmé ses progrès réalisés cette saison sur le 1500 mètres, médaillée de bronze sur la distance aux Jeux Olympiques. La Tchèque a cette fois terminé à la 2e place, à seulement 12 centièmes de la Canadienne Christina Greuves, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de la spécialité. Un classement général final dont Martina Sablikova occupe, elle, la 3e place. Pour elle, ne reste donc plus désormais qu'un dernier objectif avant la clôture de la saison, les championnats du monde toute distance, où elle défendra son titre sur le combiné le week-end prochain. En ski alpin, la République tchèque a créé la surprise dimanche à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne en remportant la Team Event, compétition par nation, organisée en clôture des finales de la Coupe du Monde. D'abord tombeur de la France en quart de finale, les Tchèques, dont l'équipe était composée de Charka Zarobska, Lucy Hrstkova, Andrzej Bank et Krzysztof Kreisel, ont ensuite disposé de l'Autriche puis de la Suisse en finale. Il est vrai privé de ses meilleurs éléments. La Team Event est une épreuve organisée depuis peu par la Fédération internationale de ski. Il s'agit de 4 duels, chaque équipe étant composée de 2 filles et de 2 garçons. Cette année, la discipline choisie était un slalom géant, disputé donc en parallèle par 2 skieurs. Contre la Suisse, en finale, les Tchèques étaient à égalité de points à l'issue des 4 courses, avec 2 victoires dans chaque camp, mais l'ont emporté grâce au meilleur temps cumulé. On passe au cyclisme. Roman Kreuziger a terminé à la 4e place de Paris-Nice, traditionnelle course à étapes dont l'arrivée était jugée dimanche à Nice. Le Tchèque, qui figurait sur la 3e place du podium avant la 7e et dernière étape, a finalement rétrogradé d'un rang. L'épreuve, première course par étape majeure de la saison, a été remportée par Alberto Contador. Au classement général final de la course au soleil, le lauréat du dernier Tour de France a devancé de 11 secondes et de 25 secondes ses compatriotes Alejandro Valverde et Luis León Sánchez, pour un podium donc 100% espagnol. Roman Kreuziger est resté au pied de celui-ci pour une toute petite seconde. Il a été victime des 2 secondes de bonification glanées par Luis León Sánchez à un sprint intermédiaire de la dernière étape. Pour le coureur tchèque de l'équipe italienne Liquigas, le bilan n'en reste pas moins positif à un peu plus de 3 mois du départ du Tour de France, qu'il avait achevé à la 9e place l'été dernier et qui sera de nouveau son principal objectif cette année. En forme, Roman Kreuziger va désormais enchaîner avec la première grande classique de la saison, Milan-San Remo samedi prochain, puis le Tour de Catalogne la semaine prochaine avant de participer aux grandes classiques ardennaises et notamment la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège mi-avril. Et puis on termine avec un mot d'athlétisme. Pour la 3e fois de son histoire, la République tchèque est revenue bredouille des championnats du monde en salle qui se sont tenus samedi et dimanche à Doha au Qatar. Les meilleures performances ont été signées par le relais féminin sur 4 x 400 mètres, 4e derrière les États-Unis, la Russie et la Jamaïque, et par Irgina Ptachnikova, Petra Svoboda, Jakub Olusha et Roman Scheberle, tous 5e dans leurs spécialités respectives, à savoir le saut à la perche féminin, le 60 mètres et le 800 mètres et l'heptathlon. Pour Roman Scheberle, quintuple médaillé en salle et double champion du monde en 2001 et 2004 de l'heptathlon, cette 5e place n'était pas une déception.
Oui, je suis plutôt satisfait de cette 5e place. Ce n'est pas si mal pour des championnats du monde, surtout par rapport à ma préparation. Je pense que si mon état de santé avait été meilleur, j'aurais même pu faire un peu mieux, même si c'est difficile de dire combien. D'un autre côté, mes adversaires ont tous fait environ 200 points de moins que leur performance habituelle. C'était donc compliqué pour tout le monde, mais me concernant, je peux être satisfait surtout en prévision des championnats d'Europe en plein air. J'ai eu la confirmation que je pourrais lutter pour une médaille.
Et précisons que ces championnats d'Europe en plein air se tiendront à Barcelone du 28 juillet au 1er août prochain et les Tchèques pourront espérer y faire mieux que ce bilan vierge de médailles ramené de ces mondiaux en salle à Doha.
Merci à Guillaume Narguet pour le sport. On passe tout de suite à la musique pour adoucir les mœurs, pas n'importe quelle musique, puisqu'il s'agit de celle choisie par notre expert en musique classique, Václav Richter. Très bonne écoute.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
Amateur passionné de danse moderne, musicien inspiré par le folklore, compositeur engagé. On peut dire tout cela et encore beaucoup plus à propos d'Erwin Schulhoff, un homme qui a apporté des impulsions inattendues et une nouvelle énergie à la musique tchèque de l'entre-deux-guerres. Il est né en 1894. Enfant prodige, reçu au conservatoire de Prague à 10 ans, pianiste virtuose qui entreprend déjà à 16 ans une grande tournée en Allemagne, il manifeste bientôt des dons pour la composition. Après des études au conservatoire de Vienne, de Leipzig et de Berlin, il écrit plusieurs compositions dans le genre du romantisme tardif, mais sa nature et l'originalité profonde de son talent le poussent vers l'expression moderne. Il trouve d'abord une forte inspiration dans le jazz qui fait fureur à cette époque aux États-Unis et en Europe. Il compose, à l'instar de ses contemporains Martinu Hayek, des foxtrots, des chimistes, des charleston, des boston, des ragtime, des tangos et des valses, mais il entreprend aussi la composition d'importantes œuvres symphoniques et de la musique de chambre. Son talent s'impose aussi sur le plan international et il est applaudi dans les festivals de musique moderne à Prague, à Salzbourg et à Genève. C'est la montée du nazisme en Allemagne qui provoquera un tournant dans sa création. Au début des années 1930, l'inspiration de Schulhoff change et il se met à composer de grandes œuvres symphoniques et vocales par lesquelles il exprime ses convictions socialistes. Il signe entre autres un oratorio pour soliste, chœur et grand orchestre avant sur le texte du manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Il va jusqu'à demander la nationalité soviétique, mais il n'échappera pas au terrible rouage de l'histoire. Arrêté lors de l'invasion de l'armée allemande en Union soviétique, il est déporté au camp de concentration de Würzburg, où il meurt en août 1942. Il restera un des musiciens tchèques les plus originaux de la première moitié du XXe siècle, qui a su absorber les impulsions de son époque et donner une nouvelle vie à la musique dite classique. C'était un fragment du quatrième mouvement Romance du sextuor d'Erwin Schulhoff. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Merci Václav de toujours nous faire découvrir des perles musicales. Et c'est ainsi que se termine le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. Pour le réécouter, une seule adresse, le www.radio.cz. www.radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 01.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.